France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France, consacrée ce soir aux métiers de service à la personne, les auxiliaires de vie. Ces métiers indispensables au quotidien des personnes vulnérables qui restent chez elles. 90% des Français estiment que ce sont des métiers d'utilité publique. Or, voilà un métier en tension, pas toujours valorisé, avec même pas mal de préjugés. Inquiétude aussi sur l'avenir du mode de financement des emplois de service à la personne à domicile. Et bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Votre prisme politique, vous nous expliquerez à quel point ce dossier est politique.
Oui, parce que ça fait des années qu'on parle des métiers du care, du soin, du lien social, en première ligne, et qui le seront de plus en plus face au vieillissement. Si les budgets ne suivent pas, comment fera-t-on en 2050, quand la France comptera 4 millions de personnes dépendantes.
A tout à l'heure, Yael. Alors, on va tenter ce soir de comprendre pourquoi ces métiers en tension ne trouvent que difficilement preneurs. Les services à la personne à domicile, des métiers considérés comme féminins, mal rémunérés, exigeants, peu valorisés donc. C'est ce que dit encore une étude publiée l'an dernier par le cabinet Occurrence pour le compte de l'APEF, qualifiée tantôt de boniche à tout faire, tantôt au contraire de magicienne, compte tenu de ce lien social que ces auxiliaires entretiennent avec les personnes vulnérables. Les paradoxes donc d'un métier du care, le métier du soin à domicile. On en parle jusqu'à 19h.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier témoignage, celui d'une auxiliaire de vie. Vous habitez Saint-Astier en Dordogne. Laurence Duranton, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur.
Voilà 14 ans que vous exercez d'abord en tant qu'aide à domicile et puis auxiliaire de vie, sanctionné par un diplôme. Donc, pour quelles raisons avez-vous choisi ce métier ?
Alors, tout d'abord, moi je viens de l'hôtellerie, j'ai travaillé 17 ans dans l'hôtellerie. Et puis, à un moment donné de ma vie, j'ai eu besoin d'une aide à domicile. Et donc, je me suis trouvée de l'autre côté en fait. Et j'ai souhaité être plus... Parce que je pars quand même d'un métier avec beaucoup de relations humaines, mais là, j'ai souhaité aider davantage les gens et être plus proche des gens. Et j'ai, au bout de 17 ans d'hôtellerie-restauration, j'ai souhaité me lancer dans l'aide à la personne.
Et comment devient-on auxiliaire de vie quand on vient de la restauration ? Avec quelle formation ?
Alors d'abord, je me suis formée sur le terrain et après, on m'a proposé un maximum de formations. Donc vous... ça peut être ouvert à tout le monde, il suffit quand même d'avoir certaines qualités pour...
Pour être auprès de ces personnes vulnérables, vous êtes d'ailleurs souvent le seul lien social que la personne âgée rencontre dans la journée. Quel rapport entretenez-vous avec ces personnes vulnérables ?
Alors, on a de très bons rapports, on échange beaucoup sur des habitudes de vie, des conseils, on nous fait des petites confidences. Il faut savoir que, bon, moi, par exemple, j'interviens chez une vingtaine de personnes, mais des fois, j'y vais plusieurs fois par semaine et j'y retourne deux fois dans la journée. Donc, c'est des personnes qu'on suit depuis longtemps. Moi, ça fait 14 ans que je suis à l'association, j'ai encore quelques personnes depuis le début.
Ah, depuis 14 ans, vous avez...
Oui, j'ai encore une ou deux personnes depuis 14 ans. Oui.
Faire la toilette, faire la douche, parfois le ménage, c'est devenu, a priori, un métier pourtant bien moins physique que lorsque vous avez commencé il y a 14 ans. Pour quelle raison ?
Exactement. C'est pas le bagne non plus de travailler en tant qu'aide à la personne. C'est difficile, soit, parce qu'il y a des... Il peut y avoir des grandes journées. On peut commencer le matin à 8h, finir le soir à 20h. On est seul à domicile, donc qui dit seul dit savoir gérer les difficultés. On peut rencontrer des situations émotionnellement difficiles, mais...
Expliquez-nous pourquoi
horaires,
c'est moins physique.
Pas tous les soirs.
Et il faut porter des corps. Expliquez-nous pourquoi c'est moins physique qu'avant.
Ah ben c'est beaucoup moins physique qu'avant parce que maintenant on ne porte plus. On ne porte plus, les domiciles sont équipés... de matériaux médicaux, d'élèves malades, des verticalisateurs, des sièges de douche, pour que les personnes, par rapport aux personnes en perte d'autonomie, pour leur permettre de rester le plus longtemps possible à leur domicile, Afin qu'ils soient sécurisés, mais aussi pour notre sécurité.
Auxiliaire de vie, on l'a dit en préambule, hein, c'est un métier en tension. Est-ce que vous comprenez ce qui peut décourager les vocations ?
Alors, ce qui peut décourager les vocations, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors il y a les horaires, mais il y a aussi le salaire. On démarre au SMIC. Il ne faut pas oublier que lors du Covid, on était en première ligne, on n'a rien lâché, mais... Depuis, il y a eu des efforts qui ont été faits financièrement, mais pas suffisamment pour qualifier notre beau métier à sa juste valeur. Moi, voilà. Je pense que ça vient de là.
Un beau métier, alors, dites-vous.
Ne demandons pas une médaille, hein, mais une vraie reconnaissance.
Eh bien, on va en parler de ce soir, de cette reconnaissance et de ce beau métier. Merci de ce témoignage, Laurence Duranton, auxiliaire de vie à Saint-Astier en Dordogne. Merci beaucoup et bon début de soirée. Une semaine en France, donc, consacrée au métier de service à la personne. Nous partons maintenant à Vierzon, dans le Cher, où la région centre Val-de-Loire finance cette année 361 formations diplômantes pour l'aide à la personne. Reportage de Guy Vanctil dans un centre de formation vierzonais.
Mesdames et messieurs, nous arrivons dans quelques instants vers le Vierzon, prochaine galerie Vierzon. Avant d'aller sur la sur les boulines, nous
allons place. Bonjour. Alors moi je suis Caroline Amouroupi, je suis conseillère en formation au Greta Centre Val-de-Loire, sur l'agence du Cher, sur le site de Vierzon. Voilà.
Bonjour, bonjour. Ici, on apprend à aller chez les gens pour être aidant.
Oui, sur le titre professionnel d'assistant de vie aux familles, qui permet en fait d'accompagner toutes les personnes quelles qu'elles soient, c'est-à-dire que ce soit l'adulte dépendant jusqu'à l'enfant. Il n'empêche que la réalité d'emploi sur Vierzon, elle est plus particulièrement sur la personne âgée.
Alors justement, vous êtes la formatrice, c'est ça ?
C'est ça, bonjour. Donc je suis Coralie Raymond, donc je suis formatrice dans le domaine sanitaire et social. Ici, on forme à la théorie, c'est-à-dire connaître ce vieillissement normal, ce vieillissement pathologique, les techniques de soins que l'on peut faire, de prise en charge, d'accompagnement. Après, les stages quand même permettent d'avoir la réalité du métier. Parce que nous, on apprend la théorie, ouais. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre.
Voilà, on va aller dans l'appartement pédagogique. Donc ça, en fait, vous voyez, nous, on a... donc effectivement, on est dans l'enceinte du lycée Henri Brisson.
Ah, c'est là pour les lycéens de rentrer en classe, mais nous, c'est là de rentrer dans l'appartement témoin.
Alors voilà, bon là, il est en confinement, enfin salle de classe, mais voilà effectivement l'appartement pédagogique. Donc vous voyez, on a une cuisine, donc ça c'est un peu la salle à manger, les toilettes, la salle de bain, et puis donc une douche. Ce sont les mêmes qu'on peut retrouver dans un domicile quand on intervient. Alors nous, on est un peu plus équipés, hein. Voilà.
Des appareils. C'est impressionnant parce qu'on voit un lit médicalisé.
Et oui.
Avec un mannequin dedans.
C'est ça, voilà.
Bonjour.
Maïmouna. 25 ans.
C'est vous qui vous occupez de la personne âgée, là ?
Oui, on va faire la toilette du visage de Monsieur Kléber.
Ah, il s'appelle, vous lui avez trouvé
oui,
un nom ?
Oui, oui, on l'a trouvé, nous.
Faut dire, je voudrais pas dire, mais il a pas l'air commode parce que c'est vraiment un mannequin avec la bouche ouverte.
Non, mais ça va, on a l'habitude d'utiliser Monsieur Kléber et ça va, ça passe, hein, souvent.
Et je vais vous demander votre prénom ?
Houssen.
On va d'abord nettoyer le front, les joues et...
les oreilles. Après l'autre.
Là, après, on va lui sécher le visage.
On fait doucement parce qu'elles sont fragiles.
Ouais, il faut surtout tapoter, oui. Hein, faut pas frotter le visage.
Là, vous êtes en train de tamponner délicatement. Là.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
C'est important.
En plus, c'est l'important qu'on parle avec eux. Tout le temps, on dit, tu me dis quand ça fait mal. Parce que parfois, les personnes âgées sont trop fragiles. On fait attention avec eux.
Alors moi, j'ai jamais été dans ce domaine-là. J'étais dans BTS Bank. Mais après,
ah oui, rien à voir.
Ah oui, rien à voir. Et après, j'ai fait du commerce. Et ça ne me plaisait pas. C'est que l'argent. Venez, vous vendez, vous partez.
Vous ne vous sentiez pas en commercial qui court après le bonus ?
Voilà. Alors que là, on aide les personnes, on est avec eux. On sert à quelque chose, on est utile. On prend soin d'eux et c'est important, je pense. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment ce métier-là, quoi.
Ouais. Alors ça, c'est le côté positif, valorisant.
Oui, c'est ça.
Mais il y a le côté concret qui peut parfois être plus dur.
Alors quand j'ai fait des stages avec des personnes en situation de handicap, c'est pas... Enfin, le terrain, c'est pas comme la réalité de ce qu'on là, on fait en formation.
Oui, parce que là, le monsieur Kléber, votre manager...
Voilà, il bouge pas, il parle pas, quoi.
Il a toujours la bouche ouverte, il regarde le mur.
Là, il est tranquille. Mais c'est vrai que dans les structures, les personnes, ils sont parfois agressifs et tout ça, c'est compliqué à gérer la chose ici.
Coralie, en tant que formatrice, il y a ce que vous enseignez Et dans la vraie vie, voilà, on peut être confronté ou à la grande dépendance, ou à la misère aussi.
Oui, c'est ça, effectivement. On est dans une confrontation parfois professionnelle qui peut être difficile à vivre parce que, on rencontre une grande détresse sociale. On se rend compte aujourd'hui que les personnes âgées sont extrêmement isolées, seules. Voilà, donc ça peut être compliqué à gérer au quotidien. Il y a aussi l'autre côté, la confrontation à la mort. Parfois, on arrive chez quelqu'un, malheureusement, elle est décédée. Donc, c'est important aussi en formation de réfléchir à ces problématiques-là. Est-ce que j'ai envisagé aussi toutes les facettes de ce métier ? Souvent, quand on aborde le sujet de la mort, je me souviens particulièrement d'une dame, de la première dame, effectivement, qui est décédée. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait extrêmement marquée parce que j'avais beaucoup d'affect pour elle. Elle représentait vraiment la grand-mère idéale, ses petits cheveux blancs. Elle avait toujours des petites madeleines. Elle était très, très bienveillante. Et c'est vrai que je m'attendais pas du tout à son décès, et ça a été assez violent, et ça m'a marqué en fait, et aujourd'hui encore même, je me souviens, je suis montée dans ma voiture, il y a une chanson de Patrick Bruel à l'époque qui est passée, et c'est la vie, je sais pas si vous connaissez,
c'est la vie.
Et du coup j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps,
c'est la vie.
Toutes les larmes de mon corps, et j'étais là, mais
c'est
quoi,
la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur.
Voilà, et c'est des choses comme ça qui nous suivent et qui... il a fallu que je sois confrontée au décès de cette personne pour comprendre que, effectivement, j'avais un attachement particulier à elle et que peut-être, pour les autres personnes, j'allais aussi essayer de garder cette distance pour pas tout le temps me retrouver en larmes en écoutant une chanson. Et c'est vrai que ça, même en ayant toute la théorie du monde, même en ayant toute l'analyse de pratique du monde, à un moment donné, on peut se retrouver emporté émotionnellement dans une situation. Et ça, malheureusement, il n'y a que la confrontation à la réalité professionnelle qui fait qu'on apprend à s'en protéger.
Et c'est aussi ce qu'on essaye, nous, de présenter dans nos formations. C'est que, on professionnalise parce qu'effectivement, c'est un métier. C'est pas comme accompagner sa grand-mère. Attention, c'est un métier.
Voilà donc pour ce reportage de Guy Vanquil qui a voulu voir Vierzon et ce centre de formation d'aide à la personne, un métier en tension donc, on le vérifie encore une fois, en Dordogne où le conseil départemental peine à combler les postes vacants, une campagne de communication a même été lancée à Périgueux pour trouver les 400 aides à domicile manquantes. On en parle maintenant avec le président du conseil départemental de Dordogne. Bonsoir Germinal Perrault.
Bonsoir.
Plus d'un mois après le lancement de cette campagne de recrutement ou de sensibilisation, combien de nouvelles vocations avez-vous déjà suscitées ?
Je n'ai pas un chiffre exact, mais on n'est pas loin de la centaine maintenant. Il faut dire que depuis 3 ans, on a essayé d'améliorer très sérieusement ce métier, comme ça a été dit précédemment, parce que c'est un véritable métier. On l'a amélioré en termes de formation, parce que aujourd'hui, ceux qui travaillent à domicile, c'est pas uniquement des gens qui font du ménage. Ça a été dit tout à l'heure, ce sont des gens qui font de l'accompagnement moral, qui luttent contre l'isolement, qui aident les personnes âgées quelquefois dans leur démarche, etc. Et ça, c'est à la fois, c'est vraiment un travail sur l'humain qui est très complexe et qui varie en fonction de chacune des personnes.
Et que fait précisément votre département pour encourager les vocations ? Parce que on parlait d'un salaire au SMIC pour commencer. Est-ce que vous arrivez à valoriser valoriser le salaire également ?
Le salaire a été revalorisé d'ailleurs suite à des mesures consécutives au Ségur. Et aujourd'hui, pour un temps complet, les gens perçoivent entre 200 et 300 euros de plus que le SMIC. Le SMIC qui frôle les 1400 euros net aujourd'hui. Donc on a fait des progrès en termes de salaire, on a fait des progrès en termes de titularisation, notamment dans les structures publiques. Dans les SIAS ou dans les SAD. C'est-à-dire que une partie du personnel, et on essaie d'avancer, devient aujourd'hui membre de la devient fonctionnaire des collectivités territoriales. Donc, ce qui va leur donner une progression en termes de salaire et en termes d'élévation dans la profession. Et puis, au-delà du salaire, au-delà de la formation, au-delà de la titularisation, on a mis en place il y a 3 ans maintenant une aide à la mobilité. On s'est rendu compte que sur les 2000 personnes qui travaillent à domicile, beaucoup ont des problèmes de mobilité, ils n'ont pas de véhicule ou les véhicules ne sont pas en bon état, etc. Et le département a pris une initiative, il a organisé la location de 1445 voitures exactement.
Pardon,
qui sont
combien
1445.
Pour le département, 1445 voitures pour aider les aides à domicile. Elles sont nombreuses, c'est les ça. Auxiliaires de vie qui n'ont pas le permis de conduire.
Alors, non, mais attendez, on l'offre à tout le monde, à toutes celles qui travaillent et qui ont un temps relativement important. C'est-à-dire que les 3/4 des personnes qui travaillent à domicile en Dordogne, aujourd'hui, bénéficient d'une voiture de service. Cette voiture de service, elle est fournie par la structure qui les emploie et elle est entièrement financée par le département. En année pleine, c'est un montant de 4,5 millions que nous avons engagé. Mais si nous l'avons fait, c'est pour revaloriser aussi ce métier. Il n'y a pas que le salaire, il n'y a pas que la formation, il n'y a pas que la titularisation. Il faut aussi régler les problèmes qui se posent dans le monde rural. Dans le monde rural, les déplacements, c'est compliqué.
Bien sûr. On va parler tout à l'heure des inquiétudes de l'Union nationale de l'aide et des soins à domicile concernant le financement de ce secteur. L'État est accusé de se désolidariser. Vous-même, à la tête du département de Dordogne, êtes-vous inquiet des priorités budgétaires de l'État concernant ce secteur ?
Ben, vous savez, on est inquiet des priorités budgétaires dans tous les domaines pour ce qui touche la maladie. Regardez les hôpitaux. Ça fait, aujourd'hui, c'est tout le monde sait qu'on manque de personnel dans les hôpitaux, on manque de personnel dans les EHPAD. Et pour ce qui concerne l'aide à domicile, l'État a décidé d'augmentations salariales qui sont en grande partie financées par les départements.
Et faute de personnel, vous en êtes à prioriser les affectations d'aide à domicile, selon quels critères d'ailleurs ?
Au cours des dernières années, il y a entre 10 et 20 000 heures par an qu'on ne pouvait pas exécuter alors qu'on les avait financées et programmées, faute de personnel. Donc aujourd'hui, on essaie de vanter ces métiers, qui sont de vrais métiers, et qui ont des avantages, c'est qu'ils ne sont pas délocalisables. Et ils sont répartis sur l'ensemble du territoire départemental. La Dordogne, c'est le troisième département français au point de vue de la superficie. Les besoins sont là. On a 38% de la population des 420 000 périgourdins qui sont des seniors, qui ont plus de 60 ans. Et on a besoin de ce personnel absolument pour répondre aux besoins de la population qui souhaite majoritairement rester à domicile. Parce que le cap que nous avons donné, c'est le maintien à domicile. Et au cours des dernières années, les portages de repas, les soins infirmiers, le travail à domicile s'est beaucoup développé pour aider la population. Notre but, c'est d'aider au mieux les habitants de la Dordogne.
Et d'où cette campagne départementale donc pour valoriser absolument ce métier. Vous les affichez dans les rues de Périgueux comme des héros, les aides-soignants, ou plutôt les auxiliaires de vie. Merci beaucoup de ce témoignage, Germinal Perrault, président du conseil départemental de Dordogne, qui a donc lancé cette campagne de communication dans les rues de Périgueux pour valoriser ces métiers. Métiers en tension, on va continuer d'en parler après la pause musicale. Vous écoutez Une semaine en France. À la technique ce soir, Loïc Frapsos, Thomas Allard et Élise Christophe.
I'm one foot front and back again. Don't tell me to be like this until the end. I'm learning to serve my friend. These treacherous oceans. I'm fucking exhausted. Messed up, distorted. My shit ain't sorted. I pray to the Lord, yes. Is it too late for me? Is it too late for me? Have you deserted me? Is it too late for me? It's too late for me. I'm one foot front and back again. That's just the comedy's ends. Peace be a crazy notion. Someone sell me the potion or lotion. It's a tragedy out of Babylon. And we can't all make the first round. Nevertheless, we are homebound. Back to the father, yeah, original sound. Is it too late for me? Oh, have you done?
Green Tea Peng, l'étoile montante du R&B londonien. C'était One Foot sur Inter, la programmation musicale de Djoubaka. Il est 18h38, on parle ce soir des aides à domicile, des aides de vie, des services à la personne, tous ces métiers en tension qui font donc défaut aux personnes vulnérables enfermées chez elles. Et j'accueille notre troisième invitée. Bonsoir Marie-Reine Tillon.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de l'UNA. L'UNA, c'est l'Union Nationale de l'Aide et des Soins à Domicile. On en a parlé depuis le début, mais à quoi attribuez-vous la détérioration financière de ce secteur ?
Et en fait, c'est une détérioration due à un système structurellement déficitaire. Le fonctionnement du financement de l'aide à domicile a été mal pensé depuis le début. Et la détérioration, elle ne date pas d'aujourd'hui. En 2012 déjà, nous avions demandé et obtenu un fonds de soutien pour aider les structures qui étaient en grande difficulté. Nous avons eu un deuxième fonds de soutien en 2019, un troisième il y a 2 ans. Et à chaque fois, c'est pour sauver les structures, empêcher les dépôts de bilan. Mais ça ne résout pas le problème structurel, qui est le problème du financement.
On a vu dans les derniers projets de loi de finances de la Sécurité sociale qu'il y avait que l'État soutenait les EHPAD en difficulté. Et que reste-t-il pour l'aide à domicile, donc ?
Rien. Rien. En fait, dans le PLFSS, il y a eu 300 millions qui ont été prévus effectivement pour aider les EHPAD, ce qui est très bien.
Les EHPAD
en difficulté, mais ça c'est évident, il y a besoin d'une aide de ce côté-là. Mais rien n'a été prévu pour l'aide à domicile. Je rappelle juste que quand même, la grande majorité des Français qui sont en situation de perte d'autonomie sont accompagnés à domicile et non en établissement.
Le travail en établissement serait donc mieux valorisé que le travail à domicile.
C'est plus visible. C'est beaucoup plus visible pour les politiques. Et ça, ça joue énormément. Le domicile, c'est diffus. On ne sait pas trop où on intervient, comment on intervient. Les familles ne se connaissent pas entre elles. Dans un établissement, les familles se connaissent, elles forment des associations, elles sont capables de manifester. À domicile, ce n'est pas le cas.
Il n'y a pas de syndicat. Vous êtes l'Union Nationale des Aides-Soignants, donc il y a bien aussi un peu de lobbying. Comment faites-vous
pour nous faisons entendre du lobbying. Ah oui, alors là, la preuve, nous avons sorti récemment encore une lettre ouverte aux financeurs.
On va en parler.
Mais c'est vrai que nous essayons de faire du lobbying, mais c'est toujours plus facile de voir et de comprendre ce qui se passe en établissement que ce qui se passe dans les multiples domiciles où nous intervenons.
Et pour en finir avec cette rivalité entre les EHPAD qui ont l'argent et les métiers de service à domicile qui n'en ont plus, vous militez pour une convention collective unique. Elle changerait quoi, cette convention ?
Alors, d'abord, il n'y a pas une rivalité entre nous, hein, c'est clairement.
Entre vous,
c'est
le parcours. Pour le financement, en tout cas.
Voilà, pour le financement, parce que c'est le parcours logique des personnes. Et puis, nous militons pour le parcours des professionnels. Vous parliez tout à l'heure, avec vos différents intervenants, des problématiques d'attractivité. On parlait salaire. Nous, dans notre branche non lucrative de l'aide à domicile, nous avons rehaussé les salaires d'environ 15% à partir de ce qu'on a appelé l'avenant 43, en 2021. Mais n'empêche que, avec les différentes hausses du SMIC, les premiers échelons de la convention collective se retrouvent à nouveau en dessous du SMIC. Alors on paie au SMIC, évidemment, mais n'empêche que ce sont des métiers très dévalorisés.
Alors cette convention unique entre les EHPAD et les aides à domicile, elle changerait quoi ?
Eh bien en fait, ça permettrait des parcours. Parce qu'aujourd'hui, une aide-soignante à domicile perçoit 400 euros de moins qu'une aide-soignante en établissement. Elle a la même formation, c'est le même métier. Quelle est la problématique ? Pourquoi est-ce qu'elle est moins valorisée ? Ce n'est pas normal. Donc effectivement, une aide-soignante qui commence éventuellement son métier à domicile, elle va en établissement, c'est peu probable qu'elle revienne travailler à domicile. C'est la même chose pour les auxiliaires. Donc là, il y a 200 euros à peu près de différence. Donc si vous voulez, nous militons pour le fait d'avoir une convention collective unique, le fait d'avoir les mêmes salaires, que l'on soit à domicile ou que l'on soit en établissement. On accompagne les mêmes personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ont de grands besoins, et il n'y a pas de raison qu'il y ait ces différences.
Alors voilà pourquoi vous avez publié, il y a 3 semaines, une lettre ouverte aux finances de l'aide à domicile pour dire que la situation est grave et qu'il faut des réponses immédiates sans intervention rapide. Et je lis votre communiqué. Sans intervention rapide, ces métiers de service à domicile vont mourir ?
Oui, on a déjà des services qui meurent. Et ça veut dire que là où il y a des déserts médicaux aujourd'hui en France, il va aussi y avoir des déserts médico-sociaux. C'est ça. Et il va y avoir de nombreuses personnes qui vont être non accompagnées. C'est déjà le cas. Il y a eu, il y a un an et demi à peu près, une alerte d'APF France Handicap et d'AFM Téléthon en disant que des personnes handicapées à domicile étaient non accompagnées et étaient en danger. Mmh. Il y a aujourd'hui en France des personnes âgées, des personnes en situation de handicap qui sont en situation de danger parce que non accompagnées. Et c'est du ressort des pouvoirs publics de se mobiliser et de faire en sorte de donner les moyens au domicile.
Vous avez envoyé cette lettre il y a 3 semaines à ceux qui financent l'aide à domicile. Qui finance l'aide à domicile? Les départements, on l'a vu.
Oui.
L'État.
Oui.
Et qui?
C'est tout.
Oui.
Alors, pour une partie, pour les personnes qui ne sont pas en totale perte d'autonomie, il y a aussi les caisses de retraite. Mais c'est surtout l'État et les départements. Et le problème, c'est qu'ils se renvoient la balle. Et que nous sommes la balle de ping-pong au milieu, en disant c'est de la faute de l'État ou c'est de la faute du département s'il n'y a pas les financements. Mais ceux qui trinquent dans tout ça, ce sont les personnes à domicile.
Marie-Reine Tillon, vous restez avec nous, j'ai encore quelques questions à vous poser. Vous êtes la présidente de l'Union Nationale de l'Aide et des Soins à Domicile. Le temps de me tourner vers Yaël Gauz,
oui.
Et comme chaque vendredi, votre prisme politique, Yaël. On va voir avec vous que concernant l'autonomie, il y a toujours un décalage entre le constat et la timidité des réformes.
Ah oui, vraiment, parce qu'on sait tout, en fait, depuis 2019, hein, on sait tout. Tout est dans le rapport de l'ex-directeur de la Sécu, Dominique Libault. On sait qu'il faudra au moins 10 milliards d'euros par an d'ici à 2030 pour répondre aux défis du grand âge. À chaque fois, on promet la grande loi pour finalement se contenter de petits textes. Or, on a eu des conventions citoyennes sur la fin de vie, bientôt sur les rythmes scolaires. Emmanuel Macron pousse au réarmement démographique. Les partenaires sociaux sont en conclave sur les retraites. Tous les âges de la vie sont traités, sauf celui où l'on est dépendant. Ça ne veut pas dire que le politique ignore les métiers du soin, hein, au contraire, mais c'est toujours sous forme d'hommages, de remerciements, d'applaudissements à 20h, qui ne suffisent plus, comme l'a constaté le député François Ruffin, auteur du documentaire « Au boulot » qui met ces métiers à l'honneur.
Je pense qu'on a gagné une bataille culturelle. Moi, quand j'ai commencé à m'engager sur ce sujet-là, c'était il y a 15 ans, vous étiez vraiment invisible. Depuis, ça a changé. Vous êtes applaudi sur les plateaux télé. Quand le président de la République, Emmanuel Macron, est venu à Amiens, je lui ai présenté des auxiliaires de vie de chez moi, Annie, Sylvie et compagnie. Et il a dit, vous êtes des saintes. Et c'est tout le problème. Parce que des saintes, ça veut dire...
Pas payé.
Vous allez être payé avec de l'eau fraîche, quoi, ouais. En gros. Hein.
C'était sur Public Sénat le 30 novembre dernier. Pas que de l'eau bénite, hein, heureusement. Il y a eu des revalorisations, on en a parlé. En 2021, un tarif plancher passé de 22 euros brut de l'heure en 2022 à 24,50 euros cette année. Depuis le 1er janvier, grâce à la loi Bien Vieillir, il y a une carte professionnelle qui permet de stationner plus facilement pour les auxiliaires de vie.
Oui, mais pas au point d'attirer suffisamment de personnes motivées. Hein.
Non, ce sont des métiers qui restent physiques. Le scandale Orpea a aussi fait des dégâts en termes d'image renvoyée par la profession. Et c'est toute la chaîne des métiers du lien et du médico-social qui souffre, nous dit Luc Carvounas. Il est maire d'Alfortville et il préside depuis 2020 l'Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale, les CCAS, acteur clé dans l'aide à domicile.
J'avais recruté une travailleuse sociale au mois de septembre 2024. Elle m'a donné sa démission en janvier 2025 parce que la charge de travail, y compris pour ces personnels qui sont censés être ceux qui vont accompagner les plus précaires, eux aussi font parfois des formes de burn-out et s'en vont.
Luc Carvounas sur Ici Pays de Savoie avec ce France Bleu le 27 mars dernier avec un cercle vicieux, Eric. Hein. Comme ça n'est pas bien payé, il y a la tentation de faire plus d'heures encore, surtout quand on est jeune, sans voir que l'on va plus vite s'épuiser et risquer l'usure. D'où les efforts que font certains départements, dont c'est la compétence, pour essayer de rendre moins difficile le quotidien des aidants. On l'a vu en Dordogne avec vous, mais les Landes aussi expérimentent depuis quelques semaines les flottes de véhicules. Xavier Fortinon préside le conseil départemental.
Quand on a remis les véhicules aux personnes volontaires qui avaient été, pour certains, tirés au sort et tout ça, je peux vous dire que vous lisiez dans leurs yeux toute la joie. Elles voyaient l'avenir de façon différente, on va dire. Aujourd'hui, je pense que c'est de notre responsabilité d'aider ces services si on veut qu'au bout de la chaîne, les personnes âgées bénéficient d'un véritable accompagnement de qualité. Parce qu'autrement, on aura de moins en moins de personnel qui voudront réaliser ces missions si on ne lève pas les freins à l'attractivité.
Mais comment lutter contre les disparités quand on sait que 20% des départements n'arrivent pas à couvrir tout leur territoire en besoin d'aide à domicile, quand on voit à quel point les Antilles, Guadeloupe et Martinique souffrent plus qu'ailleurs, et tout ça repose la question de nos finances publiques à l'heure des économies. On met 3,5 milliards par an pour le grand âge et la dépendance. Or, même la Cour des comptes, qui traque la mauvaise dépense, nous dit qu'il faudra en mettre 4 fois plus à horizon 2030, c'est demain, où trouver ces ressources? Quel budget sacrifier si on doit revenir à l'équilibre sans renoncer à soigner nos aînés? Voilà du grain à moudre, urgemment, pour nos députés qui, sur un enjeu aussi transpartisan, peuvent et doivent arriver à trouver une majorité.
Le prisme politique de Yaël Gauze, Marie-Reine Tillon, présidente de l'Union nationale de l'aide et des soins à domicile, concernant le manque de financement des métiers à domicile, des métiers de service à domicile. Vous disiez à l'instant que l'État et le département se renvoient la balle. Qui a le plus tort, si je peux me permettre, selon vous ?
Je ne donnerai pas de palme à l'un ou à l'autre. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mathématiquement, on savait que...
C'était prévisible.
C'était totalement prévisible, le vieillissement de la population. Les politiques ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas.
Un mot pour terminer sur la répression des fraudes. Elle vient de révéler que plus de 70% des prestataires d'aide à domicile contrôlés entre 2023 et 2024 présentaient des anomalies, notamment des surfacturations. Est-ce que ça ne risque pas de jouer justement en la défaveur de ce secteur au moment de repenser son financement ?
Alors, pas forcément, parce que d'abord, dans les anomalies relevées, il y avait des petites anomalies à la marge qui n'ont pas donné lieu du tout à des condamnations ou quoi que ce soit. Ensuite, il faut savoir que dans l'intervention à domicile, il y a des services lucratifs, il y a des services non lucratifs, il y a différents types de services, et il peut y avoir des process différents.
Ça concernait surtout les évolutions de prix d'une année à l'autre, hein, je crois.
Oui, c'est ça.
Et le non-remplacement des intervenants.
Et le non-remplacement des intervenants. Alors, le non-remplacement des intervenants, effectivement, vous parliez tout à l'heure de plans d'aide qui n'étaient pas totalement remplis. C'est très compliqué, lorsqu'il y a des vacances, lorsqu'il y a des maladies, de pouvoir remplacer les professionnels. Et donc là, effectivement, il y a un engagement, à la fois un engagement à suivre les personnes dans tout leur accompagnement, mais parfois, on a des difficultés.
Eh bien, merci d'être venu en parler ce soir sur France Inter. Merci beaucoup, Marie-Reine Tillon, présidente de l'UNA, l'Union nationale de l'aide et des soins à domicile. Et on surveillera donc sur France Inter ce que deviendra le financement de ces métiers en tension. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bonne soirée. La suite d'une semaine en France. Dans un instant, l'actualité en région avec les radios du réseau. Ici, il est 18h50. Tire la...
tire la vache par la queue.
La crise, c'est le titre de Jacques Higelin en 1976. Djoubaka à la programmation musicale. Vous écoutez Une semaine en France. Marie Pasquet à la réalisation. Frédéric Barrère, rédacteur en chef. Un grand merci à Joachim Taïeb qui m'a aidé à préparer cette émission. À suivre l'actualité en région.
France Inter, le 18-20. Éric Delvaux.
C'est l'heure de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ici Belfort, ici Mayenne et ici Vaucluse. Christophe Beck, Marcelin Robin, Robin Bercher, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
À Belfort d'abord, Christophe Beck. Voilà une peintre non-voyante qui veut donc dépasser son handicap.
Oui, grande amatrice d'art, Claude Carré avait commencé à peindre alors qu'elle y voyait encore un peu, il y a près de 20 ans. Depuis, ses différentes pathologies lui ont fait perdre un œil et ont installé un voile opaque sur le deuxième. À 69 ans aujourd'hui, privée de 90% de sa vue, elle ne s'est pas arrêtée de peindre. Au contraire, comme un pied de nez à ce coup du sort. Comment peint-elle alors ? Principalement avec ses souvenirs, des fleurs, beaucoup, des paysages. Elle peint toujours d'un seul trait, car elle ne peut pas revenir sur ce qu'elle ne voit pas. D'un seul trait, au jugé, elle cède d'un détecteur électronique de couleurs. Quant au résultat, elle se contente des commentaires, souvent élogieux, de ses proches et clients. Même les ophtalmos sont scotchés par le résultat, dit-elle.
Et que lui apporte la peinture, Christophe ?
Alors Claude Carré reconnaît un côté ludique à la peinture, jouer avec les mouvements et les couleurs, mais surtout, elle parle de thérapie et concède, presque gênée, que le handicap lui a apporté cet épanouissement qu'elle n'avait pas connu auparavant. Ce handicap qui lui a fait multiplier les passions, la peinture, mais aussi l'écriture, la poésie et même la danse. Un personnage attachant, vous l'aurez compris, Eric.
Et Christophe Beck à Belfort, nous allons à Laval, Marcelin Robin, ou plutôt à côté de Laval, à Andouillé, avec cet élan de solidarité pour tenter de sauver le garage vandalisé de la commune.
Le garage de Julien André, qu'il a ouvert dans cette commune mayennaise il y a un an et demi. Le lundi 21 avril, au petit matin, le mécanicien découvre les voitures de ses clients vandalisées. 18 pneus crevés et un véhicule rayé. Très vite, il chiffre les dégâts. Environ 10 000 euros, de quoi mettre en péril son entreprise. Son assurance ne le dédommage pas, celle de ses clients non plus. Julien André pense devoir mettre la clé sous la porte.
Mais, sauf que très vite, les habitants d'Andouillé se sont mobilisés.
Un client du garagiste d'abord qui ouvre une cagnotte en ligne. Des clients, même des personnes qui ne sont pas clientes, y ont participé, raconte Julien André. Ils sont venus me voir ou ont donné de l'argent au bar des sports pour qu'ils puissent le mettre sur la cagnotte qui totalise aujourd'hui 1555 euros. C'est important tout ça et ça fait plaisir, poursuit le mécanicien qui a retrouvé le sourire. Plusieurs clients sont allés aussi voir sa banque qui lui a accordé un nouveau prêt. Le garagiste a donc l'assurance de poursuivre son activité. Il ne sait toujours pas qui a vandalisé son garage. En attendant les résultats de l'enquête de gendarmerie, Julien André a mis en place un système de vidéosurveillance qu'il va renforcer dans les prochaines semaines.
Marcelin Robin, ici Mayet. Nous partons à Avignon, Romain Bercher. Avignon, ville de théâtre qui se mue en mode fashion pour accueillir un prochain défilé Louis Vuitton.
Avec cet événement mondial aux multiples secrets, alors il faut dire que rien ne filtre ou presque, hormis la date, on sait que c'est jeudi prochain, mais on ne connaît même pas l'heure du défilé, on sait simplement que Louis Vuitton s'est offert la mythique cour d'honneur du Palais des Papes, le lieu emblématique du Festival d'Avignon, pour y présenter sa nouvelle collection devant 400 invités. Je peux vous dire que les paris sont lancés ici à Avignon pour savoir quelle star mondiale sera dans la Cité des Papes la semaine prochaine, peut-être l'actrice américaine Zendaya, qui est l'égérie de la marque Louis Vuitton. Une certitude, c'est la présence confirmée de la première dame Brigitte Macron. Il faut dire aussi que la répercussion à l'échelle de la ville et de ses alentours est considérable avec ce défilé. Louis Vuitton a réservé 2000 chambres d'hôtel pour ce défilé. Les équipes de la marque sont déjà sur place pour les préparatifs. Les visiteurs du Palais des Papes, eux, sont obligés d'emprunter une entrée annexe pour visiter le site classé à l'UNESCO. L'entrée principale est fermée. Mais cette effusion de luxe est très critiquée. Une manifestation est organisée par plusieurs collectifs demain. Avec ce mot d'ordre, votre luxe et notre misère. Rappelons tout de même que le département de Vaucluse est le 5e département le plus pauvre de France métropolitaine.
Eh bien, merci à tous les trois. L'actualité d'ici et d'ailleurs avec l'indispensable concours des radios du réseau ICI, ex-France Bleu, faut-il encore le rappeler. À suivre, le journal de 19h sur France Inter et puis à 19h20, le téléphone sonne sera consacré ce soir à l'Eurovision, ou plutôt à la géopolitique de l'Eurovision.